chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Royan en compagnie de la classe de première SES2 du lycée La Solée de Saint-Marcelin. Pour cette émission spéciale diffusée en direct, nous avons la chance d'accueillir un ancien journaliste de Canal+, qui a réussi à démocratiser les jeux vidéo dans les médias. Je parle bien évidemment de Fred Moulin. Bonjour Fred Moulin.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je m'appelle Chloé et je suis en compagnie de plusieurs de mes camarades, Daphné, Nathan et Adrien.
Bon bah moi c'est Daphné.
Moi c'est Nathan.
Et moi c'est Adrien.
Fred Moulin, vous avez travaillé comme journaliste pour Canal+, vous êtes en quelque sorte un précurseur dans la démocratisation du gaming en France depuis les années 80, notamment grâce à votre émission Le Journal des Jeux Vidéo qui a été diffusée pendant 11 ans. Aujourd'hui vous dirigez Just a Game Productions, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Vous avez commencé un petit peu déjà, c'est ça qui est sympa. Comment je peux me présenter ? Je suis un cinquantenaire, alors j'ai un peu du mal avec ça, je viens d'avoir 50 ans, hein. c'est toujours difficile dans une vie d'un homme, mais en gros je suis passionné de jeux vidéo, c'est une de mes passions depuis tout petit et j'ai eu la chance, à un moment, une opportunité, voilà, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS audiovisuel qui m'a permis de faire du montage, qui m'a permis d'arriver à la télévision et puis à un moment j'ai trouvé la faille, je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait parler de jeux vidéo et on m'a dit vas-y, fais-le. Et donc j'ai réussi pendant 11 ans à animer une émission que j'avais créée, mais pendant globalement 15 ans à parler de jeux vidéo sur une grande chaîne de télé. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivé pendant pas mal de temps, de montrer en fait un petit peu l'envers du décor. Moi j'étais passionné de jeux vidéo et j'ai pu montrer un petit peu comment fabriquer tout ça, essayer de faire parler les gens qui... les humains qui jouaient aux jeux vidéo, les humains qui consommaient, qui performaient dans le jeu vidéo. Et également ceux qui créaient des jeux.
Merci. Nous allons maintenant écouter une pastille sonore qui vous rappellera peut-être quelques souvenirs.
Bonsoir et bienvenue dans le JDJV, l'émission qui vous informe en 26 minutes sur l'actualité des jeux vidéo. Attention au programme, ce soir on va parler pilotage bagnole, on a sorti l'artillerie lourde pour tester le Sébastien Loeb rallye qui sort cette semaine. J'ai invité quelqu'un qui adore ça, bon, c'est vraiment sa passion, mais ce n'est pas son métier, il est humoriste, il est avec nous, il s'appelle Arnaud de sa mère. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Fred.
Bienvenue.
Ça va ? Merci, je suis ravi de vous voir.
Arnaud de sa mère actuellement à l'affiche des Folies Bergères jusqu'au 6 février pour donc Confidence.
Sur pas mal de trucs,
plus ou moins confidentiels.
Confidentiel. Voilà.
C'est autobiographique, c'est...
Non, alors en fait, c'est comme tous mes spectacles, c'est-à-dire que c'est du deuxième degré, du début à la fin, de l'humour absurde, du burlesque, du surréalisme. Voilà, je parle de tout sauf de vraies choses.
Et après, après ça, jusqu'au 6 février, et ensuite, il y aura une grosse tournée.
Grosse tournée jusqu'à début mai, partout en France, en Suisse, en Belgique. Et ça va être la fête, donc je suis ravi.
Ah, très bien. Je t'ai invité parce que je sais que tu joues beaucoup aux jeux vidéo et je jauge tous mes invités
oui.
Avec le bon vieux Tetris niveau 9, hein, c'est pas facile. Pas mal quand même, je vois que t'es en 5e position dans le classement.
Je suis un peu déçu, je t'avoue. Ouais.
Écoute, t'as fait mieux que Titoff, t'as fait mieux que Gringe de bloquer, c'est quand même pas mal.
Pourtant, il passe du temps sur son canapé à y jouer.
C'est vrai. Alors... Autre passion, quand tu n'es pas sur scène, on a vu ça sur ton compte Twitter, tu es derrière un volant. Là, je vois que tu étais il y a très peu de temps au Trophée Andros. Le pilotage,
oui.
C'est l'autre passion d'Arnaud de sa mère.
C'est une passion, mais c'est devenu plus que dévorant. Ouais. Ouais, c'est, je suis tombé dedans il y a 3 ans. Et donc, ça a aussi coïncidé avec la rencontre avec mon épouse.
C'est vrai qu'on connaît bien à Canal+.
Bah ouais, qui est, que je ne présente pas, qui est elle-même pilote et journaliste F1, donc ça ne m'aide pas à me guérir de cette passion-là. On s'entraîne l'un et l'autre dans cette passion et c'est dévorant.
Comme promis maintenant, le rendez-vous du vendredi, place à Fred Moulin et ses jeux vidéo. Bonjour Fred.
Bonjour Isabelle.
Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette montre qu'est-ce que c'est que ça?
Vous trouvez que c'est trop gros, que ça fait trop bling-bling?
C'est un petit peu bling-bling, ouais. En tout cas c'est très voyant.
Là, non mais l'Apple Watch c'est un petit peu désuet maintenant, c'est la UK Watch, donc effectivement. Alors UK Watch, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo qui est sorti en avril dernier, qui a plutôt bien démarré, mais depuis que le dessin animé est diffusé sur Gulli, c'est un véritable carton. À 17h, ce programme attire près de 35% de l'audience des 4-10 ans. On atteint même des fois les 50%. Yo-Kai Watch, en fait, c'est l'histoire de ce garçon, Nathan, qui, durant une partie de chasse aux insectes, rencontre un fantôme. un fameux yokai, comme on les appelle au Japon. Alors, dans le folklore japonais, les yokai, ce sont des esprits qui influencent le comportement des humains. En clair, quand papa et maman se disputent pour rien, c'est certainement à cause de ces fantômes qui hantent la pièce, tout simplement.
Comme ça,
là ? Ouais, ils sont des fois dans la
pièce.
Et on ne peut pas les voir, on peut les voir seulement si on a cette fameuse yokai watch. D'ailleurs, si je l'active là... Un petit son magique, je peux scanner la pièce. Ah, je distingue Jojo Joyeux. Jojo Joyeux, c'est un...
Jojo Joyeux, non mais...
Voilà. C'est un fantôme qui est plutôt pour la bonne humeur. Donc,
ah oui, bah, ça se voit.
C'est plutôt bon signe, en fait.
Fred Moulin, nous allons maintenant revenir sur votre parcours professionnel.
Eh bien, vous êtes devenu chroniqueur jeux vidéo. Est-ce par passion ou bien une simple opportunité professionnelle ?
C'est vraiment par passion. À l'origine, j'ai pas été engagé comme expert jeux vidéo. J'ai été d'abord engagé comme, on va dire, expert multimédia internet. Et c'est finalement en me rendant compte que le jeu vidéo n'était pas traité sur les antennes de Canal que j'ai commencé à proposer, dans un premier temps, d'en mettre un petit peu, et puis après, carrément d'en parler, d'en faire des chroniques.
Et donc, vous avez passé près de 20 ans chez Canal+. Vous ont-ils démarché ou est-ce que c'est vous qui avez postulé pour ce poste ?
Et non, justement, bah comme je viens un peu de commencer à vous l'expliquer, je suis d'abord arrivé, moi, comme expert d'Internet, en fait. En 99, Internet, ça, c'était un peu le début. On pouvait commencer à s'en servir un petit peu comme outil. Et donc, en télé, on n'avait pas encore... c'était compliqué. Il fallait des gens qui maîtrisaient tout ça. Et moi, je maîtrisais tout ça. Donc, on m'a fait rentrer dans l'équipe éditoriale de Nulle Part Ailleurs. Et je suis arrivé par ce biais-là. Et c'est par la suite, au fil des années, que j'ai commencé à proposer du jeu vidéo. Donc, j'ai créé finalement la partie chroniqueur un petit peu plus tard.
Parlons maintenant du sujet qui fâche généralement. Être chroniqueur jeu vidéo chez Canal, est-ce que ça rapporte ?
Au début, ça rapporte pas beaucoup. Puis au fil du temps, quand après la notoriété du programme continue, forcément, c'est comme dans n'importe quel métier. Hein, il faut essayer d'aller négocier avec la DRH pour justifier qu'on mérite cette augmentation. Mais oui, alors je crois qu'un chroniqueur, ça dépend un petit peu des chaînes. Mais aujourd'hui, une chronique, ça doit être payé entre 400 ou 500 euros. En général, en télé, je parle. Et puis après, ça peut être beaucoup plus cher. Il y a des chroniqueurs. Je crois que Bruce Toussaint, son salaire a été dévoilé. Là, je crois qu'il est payé 45 000 euros par mois. C'est un beau salaire. Alors, je vais être toute honnêteté. Moi, j'étais bien en dessous de tout ça, quoi. Genre, pas loin de 10 fois moins. Donc, faites le calcul. Moi, en fait, j'étais salarié. Donc, j'étais pas. Certains chroniqueurs en télé travaillent à la chronique. Ils sont pigistes. Ils viennent juste pour leur chronique. Moi, j'étais un travailleur salarié. Donc, on gagne un peu moins bien parce qu'on est employé au mois. En fait, on travaille au mois.
Pourquoi, si ce n'est pas indiscret, avoir quitté le groupe Canal+ ?
J'ai fait le choix de quitter parce que la chaîne a décidé d'arrêter l'actualité du jeu vidéo. Et c'est vrai que quand on est journaliste, en télé, on a vraiment une étiquette. C'est-à-dire que moi, j'étais identifié comme un chroniqueur jeu vidéo. Donc à partir du moment où la chaîne décide d'arrêter le jeu vidéo, ça allait être compliqué pour moi de faire autre chose au sein de la chaîne. Donc d'un commun accord, on a discuté avec la direction. Et puis j'ai préféré revenir dans ma belle région d'origine.
Aujourd'hui, vous dirigez Just a Game Productions. C'est un rêve devenu réalité, un nouveau défi professionnel. Dites-nous en plus.
C'est un défi professionnel un petit peu parce qu'effectivement j'ai fait le choix de revenir dans notre belle région plus parce que voilà c'est devenu compliqué à Canal et je me suis dit je me suis bien amusé, maintenant j'ai envie de transmettre des choses. Donc aujourd'hui à travers ma société c'est un peu l'objet, par exemple aujourd'hui je suis là, je suis venu vous expliquer un petit peu mon parcours et puis j'ai aussi le projet d'essayer de faire de la web télé, de faire de la télé avec des lycéens ou avec des étudiants, donc je l'ai déjà un petit peu expérimenté. D'apporter un petit peu les techniques que j'ai pu apprendre. Aujourd'hui, en communication, c'est important d'être régulier, de créer du contenu pour une marque ou pour une société, etc. Et donc, je pense que les techniques de journaliste peuvent être intéressantes à être utilisées en communication. Donc, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Entre autres, et puis ça m'arrive, comme je disais aussi, cette étiquette de monsieur jeux vidéo Canal+. Je travaille avec pas mal de municipalités sur des événements jeux vidéo, parfois thématiques. J'ai notamment travaillé récemment avec la ville de Cré sur un événement, un week-end médiéval où j'avais proposé des jeux dans cet univers-là. Voilà, donc un petit peu de jeux vidéo, un petit peu d'audiovisuel, un peu de journalisme. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu le cœur de ma société.
Merci Fred Moulin. Nous retrouvons tout de suite après une pause musicale.
phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Sur les ondes de Radio Royan, nous sommes avec Fred Moulin, ancien journaliste Canal+, et chroniqueur dans les jeux vidéo. Je suis Chloé, et autour de la table, je retrouve quelques-uns de mes camarades de notre classe de première SES2 du lycée La Solée à Saint-Marcelin. Donc je suis en compagnie de Ismaël, Manon, Clara et Hortense.
Bonjour, moi c'est Hortense.
Moi c'est Ismaël.
Moi c'est Clara.
Et moi c'est Manon.
Fred Moulin, nous allons revenir sur votre carrière à Canal+, et votre métier de journaliste.
Alors, comment prépariez-vous vos émissions? Est-ce que vous aviez des collaborateurs réguliers ou occasionnels?
Alors, au tout départ, en fait, l'émission a duré 11 ans, elle a grandi avec le temps. Au départ, c'était un tout en images qui durait 10 minutes, et ça, je le faisais tout seul, en fait. Donc, j'étais mon propre rédacteur en chef. Donc, je veillais l'actualité, et puis après, j'essayais de choisir d'alterner dans l'émission. Voilà, 10 minutes, il faut les occuper, donc on ne peut pas faire un long... Enfin, c'est un long magnéto, hein, une émission tout en images. Donc, j'avais plusieurs séquences dedans, la partie news, la partie reportage, la bande-annonce de la semaine, voilà, histoire de casser un peu le rythme. Et puis après, au fil des temps, j'ai eu des collaborateurs qui sont arrivés. D'abord un premier JRI qui est venu, et puis ensuite un deuxième, et puis ensuite un documentaliste qui était aussi avec nous pour nous aider à préparer les images, plus un stagiaire. Donc à la toute fin de l'émission, on était 5-6 à préparer le programme. Et donc chacun avait un petit peu sa tâche, ce qui me permettait moi de me concentrer après un peu plus sur l'interview de mes invités. C'est-à-dire on lançait des magnétos, on allait tourner des sujets, puis ensuite il y avait des équipes qui s'occupaient des news et tout ça, et moi j'étais un peu plus concentré sur l'invité, parce que mine de rien, il faut préparer tout ça pour, pour que ça soit bien.
Est-ce que vous aviez une liberté totale dans les choix des jeux vidéo, dans le choix des sujets traités ?
Oui, puisque j'étais mon propre rédacteur en chef. Après, j'avais, mes collaborateurs avaient aussi la possibilité de proposer des choses. Et puis, c'était l'actualité aussi. Le fait qu'un jeu sort à un tel moment, c'est un peu imposé. On est un peu obligé de sortir, de parler de ce jeu parce qu'il fait l'événement. Mais globalement, j'étais libre de faire à peu près ce que je voulais.
Et plus globalement, comment décririez-vous votre expérience au sein du groupe Canal+ ? Qu'est-ce que vous en retenez ?
Je dirais que je suis arrivé à une période où j'ai réussi, moi, à passer de technicien à journaliste. Et ça, c'est assez rare, en fait. C'est-à-dire que quand, en général, vous arrivez comme technicien, vous restez technicien toute votre carrière. Moi, j'ai proposé de faire des choses et puis j'ai réussi à passer de la technique à l'antenne. Ça, c'est assez rare. J'apprécie qu'on m'ait donné cette possibilité, qu'on m'ait laissé le faire. Et puis après, je pense que j'ai dû le faire correctement puisqu'on m'a laissé le faire pendant pas mal d'années. Donc, c'était assez plaisant.
Et quel est votre meilleur souvenir ?
Oh, mon meilleur souvenir, c'est dur ça. peut-être, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai réussi grâce à, justement, en montant en qualité le programme, on m'a offert l'opportunité de rencontrer le créateur de Super Mario, monsieur Shigeru Miyamoto. Alors quand on aime le jeu vidéo, quand on essaye d'en parler au mieux et qu'on a cette possibilité de rencontrer une légende du jeu vidéo, alors j'en ai rencontré d'autres, mais si je dois garder un souvenir, c'est peut-être la possibilité de le rencontrer et de l'interroger un petit peu sur sa créativité.
Fred Moulin, auriez-vous une anecdote à nous raconter concernant vos années Canal+ ?
Là, c'en était une petite. Je la continue alors, puisque vous me donnez encore un peu de temps, mais je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure, mais pas forcément aux auditeurs. C'est que justement, j'ai eu cette opportunité, mais mon avion a eu beaucoup de retard. Je devais rencontrer Shigeru Miyamoto à Manhattan, et mon vol a eu beaucoup de retard. J'étais coincé à l'immigration, et j'ai appelé l'attaché de presse en disant « Je suis désolé, on est en retard, on ne sera pas là à l'heure ». Et l'attaché de presse a commencé à me dire « C'est tant pis pour vous ». Et M. Miyamoto a entendu la conversation, a compris qu'il se passait quelque chose de bizarre. Il a demandé, puis il a dit non, pas de souci. Qu'il rentre à son hôtel tranquillement, qu'il prenne sa douche et qu'il vienne ensuite après. Et donc voilà, il a accepté de me recevoir avec 2 heures de retard, ce qui n'était pas de ma faute, mais voilà, il y a certaines personnalités qui n'attendent pas quand vous avez du retard. Donc voilà, c'est un bon souvenir. Mais il y en a eu d'autres.
L'esprit Canal+ existe-t-il encore pour vous et comment le définiriez-vous ?
Est-ce qu'il existe encore ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a un petit peu disparu, en fait, de cette chaîne. Cet esprit, c'est un peu ce que je vous ai essayé de vous raconter, c'est qu'on avait la possibilité, on avait une idée, on demandait à la direction, tiens, j'ai une idée, est-ce que je peux faire ça ? Vas-y, fais-le. L'esprit, c'était ça, c'était aussi d'informer sérieusement sans se prendre au sérieux. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'état d'esprit Canal. Voilà, beaucoup de liberté, et puis un ton un petit peu humoristique, mais bien, bien dosé. Voilà, il y avait beaucoup de... à l'époque aussi, ce qui était plaisant, c'est qu'on se croisait beaucoup dans les couloirs. En fait, les gens de la musique croisaient les gens du cinéma, du jeu vidéo, du sport, et on se mélangeait. Et moi, ça me permettait de dire aux mecs du sport, tiens, il faut que tu regardes le jeu vidéo, il est vachement bien. Et puis les mecs du sport me disaient, putain, j'ai vu un truc incroyable que tu pourrais peut-être utiliser. Donc il y avait beaucoup d'échanges. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde travaille dans son coin, en fait, quoi. Et donc c'était ça qui était aussi, ça avait partie de l'esprit, je pense, c'est que les gens étaient en fait finalement presque une bande de potes avec chacun leur spécialité et essayer de faire d'essayer de faire l'émission dont ils rêvaient. Et les abonnés justement avaient la possibilité de voir ces émissions, qui étaient faites par des passionnés.
Et selon vous, Canal+ est-il toujours aussi libre qu'à ses débuts ?
En tout cas, il y a eu pas mal d'affaires dans ces dernières années qui prouvent que c'est peut-être un petit peu compliqué. Parce que, j'en pense à une en particulier où un animateur qu'un autre animateur humoristique n'avait pas été drôle et que c'était un peu dommage qu'il soit éjecté. Puis lui, à son tour, il s'est fait pousser dehors. Donc, on a l'impression que c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Mais dans d'autres domaines, ils ont aussi, ils produisent des séries très intéressantes. Il y a dans le sport l'innovation, je pense la Formule 1 par exemple, Canal+ a été récompensé plusieurs fois pour sa qualité de ses retransmissions. Donc, je pense que ça bouge en fait, les lignes bougent. Il y a peut-être des services où c'est plus compliqué, puis d'autres qui continuent d'évoluer. Donc, pas facile de répondre à cette question.
Et sinon, quelles sont les personnalités à Canal+ que vous avez côtoyées ou non et qui vous ont marqué ?
Ah bah la personne, ça vous parlera peut-être pas à vous, mais moi c'est une des personnes que j'ai rencontrées au départ. Bah déjà c'est Nagui qui m'a engagé en personne, hein, donc je le remercierai jamais assez sur cette opportunité qui a fait que voilà, on a travaillé que 6 mois ensemble, mais ensuite c'est ce qui m'a permis moi d'arriver à Canal+. Voilà, j'ai beaucoup discuté avec Philippe Gildas à l'époque aussi, qui était un grand animateur de Canal+ et qui a eu aussi pareil. On s'était passionné par son métier, donc j'avais l'occasion de le croiser de temps en temps dans les couloirs et on discutait. Voilà, Thierry Gilardi qui m'a permis de faire mes premières chroniques, qui était une personne extrêmement professionnelle, très sympa, qui m'a rassuré tout de suite. Donc voilà, en télé, il y a des personnes qui marchent sur tout le monde parce qu'ils veulent être à l'antenne. Voilà, il y a des personnes qui sont désagréables. Et puis il y en a d'autres qui sont. C'est comme la vraie vie, quoi. Il y a des gens qui sont très sympas et qui aiment partager leur savoir-faire et leur métier. Donc voilà, je les remercie encore. Voilà, je travaille avec Yann Barthès aussi. On a eu des bons souvenirs ensemble. On a travaillé pendant pas mal d'années comme ça. Et aujourd'hui, je suis un de ces téléspectateurs. Je le regarde avec plaisir.
Et est-ce que vous seriez prêt à travailler pour une nouvelle chaîne de télé? Et si tel est le cas, pour quel type d'émission?
Bah comme je vous disais, malheureusement, quand on a une étiquette, c'est très difficile de la changer. Donc je pense que ça serait compliqué pour moi, même si j'adore la musique, d'aller faire de la musique à la télévision. Bah aujourd'hui, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, mais je vous l'ai expliqué durant la présentation tout à l'heure. J'ai beaucoup voyagé, mais c'était physiquement très compliqué. Voilà, on va tourner les reportages à l'autre bout de la planète, et puis on revient, et puis on doit tourner une émission. On a pris 6 heures de décalage horaire. Donc c'était une période de ma vie voilà, où je l'ai fait, où c'était, j'avais pas... Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai envie de vivre sur un autre tempo. Donc après, si une chaîne souhaite faire du jeu vidéo, effectivement, je sais en faire. Là, j'ai collaboré l'année dernière avec le site Gamekult, où on a relancé une émission hebdomadaire. Donc de temps en temps, ça m'arrive de collaborer encore avec quelques anciens collègues. Mais oui, pourquoi pas. Mais peut-être pas sur le même rythme que celui que j'avais avant.
Comme vous le savez, nous sommes en train de mener une enquête journalistique sur le projet de développement immobilier de Tony Parker à Villard-de-Lans. Donc quels conseils pourriez-vous nous donner en tant qu'apprenti journaliste?
C'est de bien étudier le sujet, parce que ça c'est très important. Aujourd'hui, l'information, en fait... Pour moi, le métier de journaliste, c'est... Enfin, qu'est-ce qu'il doit faire, le journaliste? Il doit informer. Mais ça, informer, les infos, on les a partout aujourd'hui. Et il a surtout la deuxième mission, c'est d'expliquer l'information. Et ensuite, éventuellement, de laisser place aux commentaires. Mais le commentaire, aujourd'hui, les commentaires, il y en a sur les réseaux sociaux, tout le monde commente l'information. Donc, informer, on n'a plus forcément besoin des journalistes pour être informé. Par contre, pour expliquer, là, on a besoin de gens qui ont du talent. Donc, pour moi, c'est bien connaître le sujet, pour pouvoir ensuite essayer de se dire qu'est-ce qu'on va... Voilà, il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale aussi, c'est quel est le message qu'on souhaite faire passer à travers ce qu'on va raconter. Et ensuite, c'est d'essayer d'être précis, d'essayer de bien choisir ce qu'on a envie d'expliquer. Et voilà, le rôle d'un journaliste, c'est d'expliquer et d'être donc le plus accessible possible. Si vous arrivez à expliquer au plus grand nombre les choses, c'est un peu la clé. Si c'est trop technique, les gens vont être perdus. Si c'est trop long, les gens ne vont pas suivre. Donc, il faut arriver à trouver le bon dosage. Donc ça se passe par le travail, tout ça.
Merci Fred Moulin. Nous poursuivrons cette émission après une pause musicale.
Mes balades, je pense à elle tous les jours, j'ai peur que mon cœur se balafre. Mon gars, faut faire gaffe, ça fait du mal quand on s'attache. Laissez-moi, c'est pas grave, j'ai juste envie d'être malade. Elle me shoot avec sa calage, elle demande juste qu'on peut partager. Je me dis que c'est peut-être la bonne, celle qui m'accompagne sur le trajet. Je crois que je mange un peu vite, mais cette fille me ramène tellement de vie. Et peu à peu, elle prend de plus en plus de place dans ma tête. Ce soir, il y a tellement de gens, mais je ne vois qu'elle dans la fête. Il faudrait peut-être un jour arrêter de l'idolâtrer. Mais c'est une créature pour laquelle j'ai beaucoup d'attrait. Oui, j'adore tous ses traits, tant de visages que de personnalités. Je ressens un truc fort dont personne n'a idée. C'est pour ça que j'écris ces multisyllabiques. Elle me plaît en chanson, c'est plus facile à dire. Rendez-vous, elle arrive pile à
l'heure. Elle ramène avec elle tout un univers miniature. Je sais qu'au départ je ne suis que son ami rappeur, mais je la regarde de haut en bas et mon cœur bat à vive allure. Faudrait que je lui dise d'ailleurs, mais le surmi a peur. J'ai peur du ridicule et je veux pas trop qu'elle brise mon cœur. Je fais ses deux mains dans les miennes, pour l'instant elles sont dans son jean. Avec elle je me sens dans les dents, y'a que de la beauté dans son style, hein. Ça y est faut que je lui dise, ouais. Je veux plus qu'on se fasse la bise, non. Je veux supprimer les distances. Je vais pas passer par quatre chemins, pas besoin de faire un grand schéma. On pense pareil dans ta tête, je me sentirai comme chez moi. Donc sache que je t'aime bien. Et même un peu plus, je suis presque certain qu'entre nous deux y'a un truc, ouais. Je me fais sûrement des movies. Je sais pas si c'est du love, mais c'est comme dans les movies. Je sais pas si c'est du love. Je me fais sûrement des movies. Je sais pas si c'est du love, mais c'est comme dans les movies. Ouais c'est comme dans les movies. Ouais c'est comme dans les movies. Peut-être que c'est ça le love.
Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Royan, toujours en compagnie de Fred Moulin, chroniqueur jeux vidéo et ancien journaliste chez Canal+. Nous sommes une classe de première SES2 au lycée La Solée de Saint-Marcelin. Donc moi je m'appelle Chloé et en ma compagnie j'ai plusieurs de mes camarades, Léa, Lisette, Amine, Elisa, Zoé et Honorine.
Bonjour, moi c'est Elisa.
Moi c'est Honorine.
Moi c'est Amine.
Bonjour, moi c'est Zoé.
Les jeux vidéo constituent aujourd'hui un média à part entière, surtout au sein de la jeune génération, et nous avons même quelques gamers dans la classe. Alors intéressons-nous à ce nouveau réseau social.
Fred Moulin, qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo pour vous ?
Ah, ça c'est dur. ça c'est vraiment très subjectif, en fait, c'est un peu en fonction de ce que vous aimez. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup jouer en ligne aujourd'hui, moi c'est pas ce que je préfère. Un bon jeu vidéo... Après, ça dépend vraiment de ce qu'on aime. Hein.
Vous aurez un exemple ?
Là, dernièrement, je vais prendre le dernier exemple. Un des derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est Alan Wake 2. Et c'est un jeu vidéo de 2024, même s'il est sorti en 2023. C'est incroyable en termes de réalisation. On dirait l'impression de regarder un film. D'ailleurs, il y a des séquences de films à des moments dans le jeu. Et donc, on est dans du très haut niveau en matière de narration. On est dans du cinéma interactif, tellement les comédiens, tellement c'est très bien réalisé. Donc, j'aime bien les jeux comme ça. J'avais beaucoup aimé The Last of Us. Je suis plutôt moi sur les jeux qui m'emmènent dans une histoire plutôt que des jeux qui font appel à de la dextérité. J'ai tiré sur pas mal de choses pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, j'aime bien quand il y a un peu de fond dans les jeux auxquels je joue.
Vous êtes plutôt Xbox ou PlayStation ?
J'ai le bonheur d'avoir toutes les machines qui existent du marché. Alors à l'époque où j'étais journaliste, les marques m'offraient les consoles. Là, mon dernier achat, c'est la Xbox Series X que je n'avais pas et donc je me suis acheté. Donc je joue quasiment sur toutes les plateformes PC, VR, Switch. Je prends du plaisir à tous les jeux. Donc là, je parlais des AAA, mais je joue aussi à des jeux plus indépendants, des petits studios qui ont des fois des petites originalités. J'aime aussi beaucoup ça. Je fais parfois des ateliers où je fais découvrir les jeux vidéo seniors. Donc j'aime bien des fois trouver des trucs un petit peu atypiques pour montrer que le jeu vidéo, c'est justement pas que des jeux où on se tire dessus, quoi.
Avez-vous un jeu vidéo fétiche ?
Tetris. Tetris, parce que Tetris, c'est des briques qu'on doit... Le concept est assez simple, on doit empiler des briques pour faire des lignes, et en fait, Tetris, c'est un jeu qui fête ses 40 ans cette année, et qui est toujours... n'importe qui... Enfin, on prend du plaisir quand on joue à Tetris. Je sais pas si tout le monde aime Tetris, mais disons que c'est un jeu, pour moi, assez simple et qui ne vieillit pas.
Fred Moulin, quel nouveau jeu vidéo attendez-vous avec impatience ?
Je vous dis, j'ai fait Alan Wake, là, que j'aimais bien. J'ai pas trop... Je sais, j'ai envie de savoir quel sera le prochain jeu du studio Naughty Dog, parce que j'aime beaucoup ce studio. Et puis, bah, comme beaucoup de gens, j'attends GTA 6 aussi avec beaucoup d'impatience. Les équipes de Rockstar voilà, ont beaucoup de talent pour... GTA, c'est une série qui est beaucoup... Alors, les gens qui ne connaissent pas GTA critiquent beaucoup GTA, mais voilà, les gens qui ne connaissent pas, c'est surtout une satire de la société américaine, GTA. Et c'est fait avec beaucoup de talent. Et bah, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que justement, jusqu'à maintenant, les programmeurs de ce jeu, les équipes s'amusaient un petit peu à caricaturer le monde dans lequel on vit. Et ils expliquent aujourd'hui que le monde est tellement parti en sucette avec les réseaux sociaux, avec des gens qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, que pour eux, c'est très très difficile de pousser le curseur au-delà de ce qui existe déjà. Donc j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont nous proposer.
Vos émissions sur les jeux ont-elles changé le regard de votre entourage sur les jeux vidéo ?
Oui, bah à commencer peut-être. Alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai qu'on a toujours envie de savoir ce que ses parents pensent de ce qu'on fait en fait. Quoi. Et moi, j'ai souvent, moi quand j'étais petit, mon papa pensait que j'irais nulle part en jouant aux jeux vidéo. Et donc bah, forcément, après j'ai toujours eu dans un coin de ma tête en lui disant regarde, finalement ces jeux, c'est pas si nul que ça. Il y a de la création, il y a du talent, il y a des gens qui produisent des jeux avec beaucoup de talent, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo avec beaucoup de talent. Voilà, c'est ce que je me suis efforcé de faire au fil des années.
Et pensez-vous que le monde des jeux vidéo est encore très masculin au niveau des joueurs et du scénario dans les jeux ?
Alors, les études disent qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Après, je pense qu'on ne joue pas du tout au même jeu, enfin, pas forcément. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, il y a des jeux. Alors, il y a peut-être quand même plus de jeux qui sont faits pour les garçons. Mais en France, on a par exemple quelques... Je pense à Jeanne Rousseau, qui a son propre studio, une femme qui crée ses propres jeux et des jeux qui ont du succès. Donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes qui créeront des jeux pour les hommes et les femmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeux qui sont faits par des hommes. Donc je pense que ça serait bien pour l'avenir, c'est que des femmes puissent plus créer de jeux. Et ensuite, effectivement, il y a des comportements effectivement aujourd'hui qui sont toujours inacceptables dans ce monde-là. Après, c'est vrai que le jeu vidéo, voilà, c'est utilisé. On utilise certains canaux pour s'exprimer. Il y a peut-être un manque de maturité qui font qu'il y a des comportements. Alors, je ne sais pas si c'est que des personnes en manque de maturité qui ont des mauvais comportements. Je ne vais pas prendre des raccourcis, mais voilà, il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire. C'est le respect. Mais après, ce n'est pas forcément lié au jeu vidéo. Il y a des mauvais comportements aussi sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Donc, c'est plus une histoire d'éducation pour moi.
Selon vous, l'IA va-t-elle révolutionner le jeu vidéo ?
L'IA va tout révolutionner, donc le jeu vidéo aussi. D'ailleurs, c'est déjà le cas. La semaine dernière, il y a le nouveau Prince of Persia qui est sorti. Et il y a certains lignes de dialogue qui ont été écrites par une intelligence artificielle. Donc oui, c'est un outil, c'est un nouvel outil. Voilà. Avant, on a eu... moi, quand j'ai commencé justement à Canal+, j'étais l'expert d'Internet, mais il n'y avait pas encore Google. Et quand Google est arrivé, ça a été une révolution, ça a simplifié les recherches. Aujourd'hui, on a l'IA qui peut nous aider donc il faut prendre ça comme un outil et je pense que ça peut aider plein de choses. Il faut apprendre à le maîtriser par contre, parce que si on le maîtrise bien, ça peut être intéressant.
Comme vous le savez, il y a le bon et le mauvais chasseur. Alors qu'est-ce que pour vous un bon gamer et un bon journaliste ?
Un bon gamer, je sais pas, ça... Là, comme ça, j'ai entendu envie de dire c'est celui qui a du skill, quoi, comme on dit, celui qui a du niveau, qui passe du temps. Et bah, pour le journaliste, c'est un peu pareil en fait. Je pense que c'est un peu la... Un jeu, on va prendre Mario par exemple. Mario, pour moi le jeu vidéo c'est un peu une philosophie de la vie, c'est-à-dire qu'on peut pas être bon du premier coup, on peut pas finir un jeu tout de suite si on le connaît pas. Et pour un métier c'est la même chose, et pour un sport c'est la même chose. Donc il faut jouer, donc on découvre d'abord, on essaie de comprendre, on commence à comprendre, on s'améliore, plus on joue, plus on s'améliore, puis on commence à comprendre les règles, on commence à maîtriser les règles, et puis quand on maîtrise parfaitement les règles, on peut parfois arriver à les outrepasser. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans le jeu vidéo. Souvent, on se rend compte des fois qu'il y a des raccourcis finalement. Alors, vous êtes embêté pendant un moment, mais vous finissez par les trouver à force de pratiquer. Donc, je pense qu'il y a une belle école de l'apprentissage aussi, mais ça marche pareil dans le journalisme. Si plus vous travaillez, plus vous entraînez, plus vous faites des missions, plus vous allez vous améliorer et plus vous allez maîtriser le sujet.
En matière de jeux vidéo, intéressons-nous quelques instants à ses impacts sur l'environnement. Deux chiffres à ce sujet, la fabrication d'une PlayStation émet 89 kg de CO2 et l'industrie mondiale du jeu vidéo rejetterait chaque année 37 millions de tonnes de CO2. Fred Moulin, est-ce que vous trouvez qu'on pourrait ou qu'on devrait parler plus de ce sujet ?
Je pense qu'il faut en parler, oui bien sûr, et dans plein d'autres niveaux, mais les studios en ont pris conscience. Hein. Il y a de plus en plus de studios qui essayent tout le monde en fait, jusqu'à maintenant il fallait des outils pour pouvoir mesurer tout ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il y a une vraie prise de conscience, et que là aussi, déjà le fait de peut-être qu'on aura plus besoin. Alors, quand on n'a plus besoin de console, on a besoin de serveurs et de réseaux, donc on met le problème ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on stocke, on fabrique des consoles qu'on doit stocker, qu'on doit dispatcher partout dans le monde, les jeux aussi. Donc, la dématérialisation, peut-être que c'est une bonne voie. Et puis même dans la production de jeux vidéo, et maintenant il y a des gens qui produisent des jeux de chez eux, qui n'ont plus besoin de se déplacer jusqu'à leur travail, et puis qui assemblent. On a des exemples en France, hein, de jeux qui ont été fabriqués comme ça, chacun dans son coin, et puis on assemble le tout et on le met en ligne. Donc oui, c'est en tout cas il y a une vraie prise de conscience sur l'impact environnemental.
Vous qui vivez non loin du Vercors, vous avez sans doute entendu parler du projet immobilier de Tony Parker. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense qu'effectivement, c'était peut-être... Alors en fait, ça date de 2018 ou 2019, ce projet. Je crois que ça a commencé à peu près ce moment-là. Vous avez peut-être plus d'informations que moi à ce sujet. Vous me confirmez ?
Oui,
2019
oui, je crois
que... Et je pense que c'était avant le Covid, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi... Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur. Il faut toujours vérifier ces informations. Mais qui pourrait peut-être prochainement se désengager de ce projet pour faire carrément autre chose. Je pense que c'était peut-être c'était avant qu'on se rende compte de plein de choses, en fait, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est pareil, l'impact climatique et sur l'environnement, tout ça, en 2019, c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, en fait, quoi, dans l'état d'esprit. Donc je ne sais pas d'ailleurs si on... Enfin, vous êtes peut-être mieux au courant que moi, mais est-ce que ça a déjà commencé, les travaux ont déjà commencé, c'est déjà engagé sérieusement ou c'est encore en projet ?
Non, toujours en projet.
Ouais, toujours en projet, donc... Peut-être que ce projet sera abandonné, mais effectivement, ça semble, pour moi, comme ça, de loin, en tant que spectateur, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, ils vont peut-être mieux préserver la montagne que d'aller y construire des nouvelles choses. Voilà.
Nous avons créé un compte Instagram pour notre projet qui s'appelle L'Assolé Vercors. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre nos aventures. Et nous avons vu sur votre compte Instagram que vous aimiez bien vous promener en gyropode dans le Vercors. Est-ce que vous avez des coins à nous conseiller dans la région ?
En gyro-roue, même plus précisément. Oui, oui, tout à fait. J'ai pendant 20 ans, j'étais en région parisienne, je vivais en région parisienne. Donc aujourd'hui, j'apprécie de pouvoir justement... redécouvrir, voire même découvrir un peu mieux notre région. Et effectivement, le Vercors, dès que j'ai l'occasion, dès qu'il fait beau, je prends ma roue électrique et je vais faire des balades. Non, mais tout le Vercors est magnifique. Et donc, ce qui est pratique avec l'engin que j'ai, c'est que je peux rouler sur la route et aussi sur les petits chemins. Donc, voilà, j'ai découvert quelques auberges, quelques endroits sympas au sommet du Vercors. Et j'ai hâte... que la météo s'adoucisse pour pouvoir repartir, me promener dans ce magnifique Vercors.
Et pour finir cette émission sur un ton plus léger, vous voulez bien vous prêter un jeu à la Yann Barthès ?
Avec plaisir.
Si vous étiez une chanson ?
Si j'étais une chanson... j'ai envie de dire... Tout à l'heure, on a écouté Get Lucky de Daft Punk... Je sais pas s'il faut le traduire par et de la chance ou soit chanceux, get lucky, comment on peut le dire, get lucky, et de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, moi, justement, de pouvoir vivre de mes passions, donc finalement, voilà, je prends ça, là. C'est un peu le hasard, ce morceau est passé, mais j'ai eu dans ma carrière de DJ l'occasion de passer pas mal de leurs disques, et donc voilà, on va choisir get lucky alors.
Si vous étiez un paysage.
Le Vercors.
Si vous étiez un film.
Bah, j'ai parlé de Tetris tout à l'heure, j'ai envie de dire le film Tetris, tiens, regardez-le, c'est assez intéressant de savoir un petit peu comment toute l'histoire, c'est assez passionnant, toute l'histoire qu'il y a derrière, comment ce jeu est arrivé. Alors, il était d'abord dans les salles d'arcade, et ensuite il est arrivé sur les Game Boy, et voilà, c'est assez intéressant de voir, même si c'est un peu romancé l'histoire, mais je vous invite à regarder ce film Tetris, si vous avez l'occasion.
Si vous étiez une couleur.
Une couleur. Je veux dire purple, c'est ma couleur.
Si vous étiez un héros de jeu vidéo.
Un héros de jeu vidéo. Si c'était féminin, ça serait Lara Croft. Et il y a son pendant masculin qui est Nathan Drake de Uncharted, voilà, qui est un peu l'Indiana Jones du jeu vidéo. Voilà, ça me pour pouvoir vivre ses aventures, voyager, découvrir des trésors et tout. C'est ça le jeu vidéo. J'ai beaucoup joué à Lara Croft. Enfin, ça a suivi mon évolution. Et c'est toujours ce qui a marché pour moi dans Lara Croft, en Tomb Raider, c'est ce côté d'aller découvrir des temples et tout, d'actionner des stratagèmes pour ouvrir des découvrir des trésors.
Et enfin, si vous étiez un média.
un média. Et ben, le jeu vidéo est un média aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier parce que justement, il y a beaucoup de créateurs et encore plus dans le monde indépendant, des gens qui racontent des histoires grâce au jeu vidéo. Donc, plus que jamais, le jeu vidéo, même si ce n'est pas le plus accessible.
À nouveau sur les ondes de Radio Royan, toujours en compagnie de Fred Moulin. Nous sommes une classe de première SES2 du lycée Lassolée à Saint-Marcelin et nous allons clore l'émission.
Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à Radio Royan qui nous a permis de réaliser cette émission. Et mention spéciale à Patrice Gilman qui a gentiment accepté de nous aider dans ce projet. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Merci également aux enseignants porteurs de ce projet, sans qui il n'existerait tout simplement pas, Monsieur Fichet et Madame Sen. Merci également à nos intervieweurs qui se sont portés volontaires. Il est aussi bon de rappeler que rien n'aurait été possible sans le financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du rectorat de Grenoble et du lycée. Et bien évidemment, merci à vous, Fred Moulin, pour le temps que vous nous avez accordé et la richesse de cet échange. Finalement, merci à vous, chers auditeurs. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas, encore une fois, à nous suivre sur Instagram, SES-radio-vercors, et restez connectés sur Radio Royan. Au revoir.
Merci de m'avoir invité, et soyez beaux joueurs.
Merci à vous.